La diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des émissions en langue française de Radio Prague. Culture, courrier et littérature, c'est le programme que nous vous proposons ce samedi et on commence avec Culture sans frontières, aujourd'hui consacrée à la musique d'orgue. La 16e édition du Festival international de musique d'orgue, Audite Organum, a commencé en effet début août dans la basilique Saint-Jacques dans le premier arrondissement de Prague et elle se poursuivra jusqu'au 22 septembre prochain. Magdalena Rosinkova a invité au micro l'organisatrice du festival et l'organiste titulaire de la basilique, Irina Kshipkova, et Olivier Latry, un des meilleurs organistes français venus dans la capitale tchèque inaugurer ce festival.
Culture sans frontières. Magdalena Rosinkova.
Toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, l'œuvre pour l'orgue la plus connue au monde, a fait résonner le 4 août dernier l'orgue baroque de la basilique Saint-Jacques, dont nous aurons encore l'occasion de reparler dans ce magazine. Olivier Latry, 49 ans, le grand invité du festival Audite Organum, a joué lors du concert d'ouverture, notamment des œuvres du répertoire français, des compositions de César Franck, Charles-Marie Widor, Jean Langlais, Gaston Litez et Marcel Dupré. Il a aussi improvisé autour de l'œuvre de l'organiste tchèque du XXe siècle, Bedřich Antonín Widerman, auquel le festival rend hommage cette année. À l'issue du concert, il a expliqué pourquoi il préférait ne pas connaître la musique de Widerman avant d'improviser. Propos recueillis par Terezia Bečková de la radio tchèque.
Je la connais toujours pas d'ailleurs, mais c'est mieux comme dans ce sens-là, parce que ça permet quand on improvise d'elle totalement libre, si j'avais connu par exemple le prélude des fugues sur lequel j'ai improvisé, j'aurais eu ça en mémoire et forcément ça aurait interféré sur ma propre inspiration. Donc c'était mieux de n'avoir que le thème. Et maintenant que j'ai improvisé, je vais pouvoir écouter la pièce pour comparer et voir ce que lui a fait par rapport à ce que moi j'ai fait.
Un extrait de l'improvisation autour de l'œuvre de Widerman présentée par Olivier Latry à Prague. Si ce compositeur décédé en 1951 et qui commence seulement aujourd'hui à être découvert à l'étranger, s'il n'est donc pas familier pour Olivier Latry, d'autres grands noms de la musique tchèque, de la musique d'orgue notamment, figurent à son répertoire.
Mais pas seulement Peter Eben, aussi Jana Tchèk par exemple.
Mais Jana Tchèk.
Mais j'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça à la messe glagolitique avec l'orchestre de la radio de Vienne pour l'inauguration de la salle du Musikverein. C'est, en tout cas, comme on n'a pas, il n'y a pas beaucoup de compositeurs qui ont écrit pour l'orgue dans les compositeurs connus. Je pense à, Smetana, par exemple, n'a rien écrit pour l'orgue. Donc c'est vrai que, Jana Tchèk est une personne que les organistes connaissent, notamment pour le postlude de la messe glagolitique qui est très souvent joué, même dans des pays comme la France. Alors qu'en France, généralement, on est quand même assez protectionniste et on ne joue souvent que du répertoire français. Mais voilà, Jana Tchèk est quand même joué, malgré tout. Parce que j'ai entendu jouer cette pièce, notamment, il y a déjà une vingtaine d'années, par l'organiste André Isoard, qui avait ça à son répertoire et qui jouait ça très souvent.
Olivier Latry a la réputation d'être un des meilleurs improvisateurs contemporains. Peut-on en fait apprendre l'art de l'improvisation, ou alors est-ce un don inné ?
On essaye d'apprendre l'improvisation, mais le problème, c'est je crois que ça ne s'apprend pas. C'est un peu comme la composition. Comment on peut apprendre à quelqu'un à composer ? On lui apprend les règles de l'écriture, on lui apprend des accords, on lui apprend le contrepoint, on lui apprend toutes les formes. Et puis après ça, on lui dit, débrouille-toi. Et pour l'improvisation, c'est un peu pareil. Sauf qu'il faut ajouter en plus la technique de l'instrument. Et une fois que vous avez tout ça, vous vous lancez, et puis voilà. Mais je crois que finalement, l'apprentissage de l'improvisation, c'est l'apprentissage d'une vie. Je pense qu'on improvise de mieux en mieux. Enfin, j'espère. Non, il me semble quand même qu'on improvise mieux, à 30 ans ou 35 ans qu'à 20, par exemple. Parce qu'à 20, c'est vrai qu'on foisonne d'idées ou tout ça, mais il y a une certaine maturité et finalement une certaine expérience qui vient avec le temps, qui permet justement de développer encore ces idées.
Olivier Latrie est un des trois organistes titulaires de la cathédrale Notre-Dame. Une question que les journalistes tchèques lui ont fréquemment posée, peut-on comparer l'orgue de Notre-Dame à celui de l'église Saint-Jacques, deuxième plus grand en République tchèque ?
Non, parce que non, on peut pas comparer deux instruments. C'est comme comparer deux êtres humains. Vous allez comparer quoi ? Il y en a un qui a les cheveux noirs, l'autre qui a les cheveux blonds. Il y en a un qui a un long nez, l'autre qui a les grandes oreilles. Je sais pas. C'est difficile. Et chaque orgue a sa personnalité. Et donc on fait avec la personnalité de l'orgue. Il faut pas chercher à comparer, sinon c'est foutu d'avance. Voilà. Il faut vraiment que on réussisse à finalement entrer le plus possible dans l'orgue, dans le caractère de l'instrument. C'est un petit peu comme quand vous rencontrez une personne et vous essayez de déceler sa personnalité, ses caractères, son caractère, les choses qui sont en rapport avec vous, les choses que vous aimez moins, etc. Et finalement, c'est ça. Donc, en soi, il faut faire avec. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente entre l'instrument et l'organiste. Voilà, et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois que je joue un concert.
Quel est alors le caractère de l'orgue de la Basilique Saint-Jacques, Olivier Latrie ?
Finalement, c'est un monde un petit peu étranger par rapport à ce que j'ai l'habitude de jouer en France. J'ai joué beaucoup d'orgues de ce style-là dans certains pays, notamment du même facteur aussi à d'autres endroits. Donc je connaissais un petit peu ce style et ça... Je savais à quoi m'attendre, je savais comment gérer globalement les registrations, etc., pour trouver les sonorités qui marcheraient. Je crois que ça a assez bien marché, par exemple, pour le Bach ou les choses comme ça, ou le Dupré aussi, ou l'improvisation, parce que l'improvisation, c'est là où on peut faire le plus de choses pour l'orgue.
Les concerts à la Basilique Saint-Jacques sont accompagnés de projections vidéo qui permettent au public de suivre visuellement ce qui se passe à la tribune, le jeu de l'organiste dont le corps entier est en action. C'est un avantage aux yeux d'Olivier Latrie.
Ça se fait assez régulièrement un peu partout. Il y a des endroits où quand les gens veulent réellement faire un coup médiatique, je leur dis de faire ça parce que ça me paraît extrêmement important. Que l'orgue ne reste pas un instrument comme ça totalement lointain et figé et je pense que ça permet justement aux gens qui regardent la télé toute la journée d'avoir ce rapport à l'image aussi, parce que finalement à l'orgue on n'a pas de rapport à l'image. Quand vous êtes dans une salle de concert et que vous voyez un pianiste jouer ou un violoniste, vous l'avez en face de vous, vous pouvez regarder et c'est tout ce que vous voulez voir, tandis qu'avec un organiste, il n'y a pas moyen. Et je pense que c'est important aussi pour la vulgarisation de la musique d'orgue, qu'on puisse voir justement les organistes comme ça. Et il m'est arrivé même des fois, non seulement d'avoir la vidéo, mais de demander un micro pour pouvoir présenter moi-même les pièces à la tribune. Donc avoir ce double rapport avec les gens. Évidemment, là, je l'aurais pas fait parce que, comme je parle pas un mot de tchèque, ça aurait pas marché.
Bonjour. Aujourd'hui, les gens ne savent plus être en silence avec soi-même. Ils n'écoutent pas la musique les yeux fermés. Pour eux, le côté visuel des choses est très important, même pour la perception des sens. C'est entremêlé, explique Irena Chrzypkova, organiste à Saint-Jacques, fondatrice et organisatrice du festival Audete Organum. Cette année, le festival est donc dédié à Bedřich Antonín Widerman, le compositeur tchèque, décédé il y a 60 ans, peu connu dans son pays et à l'étranger, et présenté par sa musique et à travers une exposition mise en place dans la basilique Saint-Jacques. Irena Chrzypkova.
Bedřich Antonín Widerman il a vécu au début du XXe siècle et il était un grand virtuose d'orgue. À côté de ça, il était un professeur au conservatoire de Prague, après à l'Académie des Muses. Et il faut dire qu'il était aimé de ses élèves. Et sa troisième rôle était le compositeur. Il a écrit à peu près 350 œuvres, et c'était des œuvres d'orgue, des œuvres du chœur et des œuvres de chambre. Tout était, on peut dire, la musique sacrée. Et Bedřich Antonín Widerman est aussi lié avec notre basilique. Pourquoi? Parce qu'il a joué ici à peu près 10 ans, de 1941 jusqu'à sa mort. Il a joué ici la musique d'orgue tous les dimanches. Et c'était aussi lui qui avait l'idée de faire un nouvel instrument ici à la basilique. Jusqu'à cette époque, était l'orgue d'Abraham Stark de Loket. Et c'était l'orgue mécanique, mais il était un peu limité, c'était l'orgue baroque. Et pour les œuvres de Widerman, il faut jouer sur un orgue à peu près qui a trois claviers et qui est plutôt romantique. Et lui, il a fait une nouvelle disposition, de nouvel orgue, et cet orgue était construit en 1941.
Et vous allez interpréter une de ses œuvres lors de ce festival, c'est ça?
Oui, c'est ça. Moitié de mon programme est consacré aux œuvres de Bedřich Antonín Widerman. Dans ce programme, il y a une œuvre qui s'appelle « Uxortua », et cette œuvre était jouée seulement pour le mariage de son neveu. Alors on peut dire que ce sera une nouvelle première.
L'orgue de la basilique Saint-Jacques a été modernisé cette année. Pourriez-vous dire en quoi consiste cette modernisation?
Oui, on a décidé l'année passée qu'il faut faire la nouvelle console. Il y avait beaucoup de difficultés avec les jeux qui pas à pas ne fonctionnaient pas. Alors on a fait une fondation qui a collecté l'argent pour faire cette modernisation. Et maintenant, il y a un mois qu'on a fait ça. Et maintenant, on a dans la console un ordinateur qui peut garder, qui peut tenir dans sa mémoire 4000 possibilités des couleurs des jeux. Pas seul, mais c'est l'organiste qui fait son programme pour son concert. Et après, il appuie le même bouton. Et ça change, ça change, ça change. Alors, il n'a pas besoin d'un assistant, un assistant ou deux assistants, seulement s'il faut tourner les pages. Mais pour jouer, il est soliste, il est capable de faire seul. Et c'est la meilleure solution.
C'est donc l'organiste Irina Krzypkova au micro de Magdalena Rozinkova. Le festival de musique d'orgue Audite Organum se poursuit jusqu'au 22 septembre. Les concerts ont lieu chaque jeudi à la basilique Saint-Jacques, rue Mala Stuparska, dans la vieille ville de Prague. Plus d'informations également sur le www.auditeorganum.cz. Comme tous les 15 jours, en alternance avec le tchèque du bout de la langue, place maintenant au courrier des auditeurs, à votre courrier donc, dont le tri a été effectué cette semaine par Anna Kubishta.
Courrier des auditeurs.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau courrier des auditeurs, une émission désormais bimensuelle, comme vous le savez. La période des vacances est appelée Okurkova sezona en tchèque, la saison des cornichons ou des concombres. Une sympathique expression pour dire qu'il ne se passe pas grand-chose pendant l'été. Une expression beaucoup utilisée par les journalistes qui luttent pour trouver des sujets à traiter. Eh bien, cette saison des cucurbitacées touche également vos courriers puisqu'ils sont manifestement réduits à la portion congrue pendant ces mois estivaux. Une mention spéciale cependant à notre auditeur africain Christian Douchimé de Yaoundé au Cameroun. Nous n'avions pas entendu parler de lui depuis longtemps, mais nous sommes ravis de vous retrouver sur Radio Prague. Il nous a donné de ses nouvelles et ça nous fait bien plaisir.
Très heureux de vous écrire à nouveau après quelques mois d'absence dans vos courriers. Cependant, je suis restée avec vous à travers votre site internet, ma fenêtre sur la République tchèque depuis la suspension de vos programmes sur les ondes courtes. La disparition de Petrova Bouda me laisse sans voix. J'ai appris cette mauvaise nouvelle sur vos ondes. Plus inquiétant, les trois bâtiments datant de plus de 2 siècles. On était perdus dans l'incendie. J'espère que les autorités trouveront rapidement une solution pour restaurer le site. Question. La République tchèque dispose-t-elle des moyens pour restaurer les sites historiques dans ce genre de situation ?
Difficile de répondre à votre question, Émile Christian Douchimé. En effet, le monument est classé, mais celui-ci n'appartient toutefois pas à l'État, mais à un propriétaire privé, négligent s'il en est, puisque je rappellerai qu'un premier incendie avait eu lieu quelques semaines avant le sinistre qui a ravagé le monument. À l'heure actuelle, je peux vous dire que les inspecteurs des monuments historiques ont fait savoir qu'ils attendaient du propriétaire en question qu'ils reconstruisent la Petrova Bouda à l'identique. La gestion du patrimoine en République tchèque étant parfois un peu hasardeuse, espérons en effet que le bâtiment renaîtra bientôt de ses cendres. Et puis nous avons reçu ce message d'un couple de Français qui visiblement a très envie de prendre le large.
Je décide de vous contacter car avec mon ami, nous étudions très sérieusement l'idée d'aller découvrir Prague pendant un mois, sans doute de se faire une première idée, sans doute en septembre ou octobre, afin de pouvoir ensuite s'y installer. Tenter une nouvelle aventure. Pour cette première prise de contact, je vais tenter d'être assez bref et concis. Pas loin de la quarantaine tous les deux, 39 ans, nous souhaitons tenter un nouveau départ. Quitter Bordeaux et la France pour un nouveau challenge personnel et professionnel. Mon ami est artisan mosaïste d'art depuis 2 ans, création, cours et stages du public, chantier, salon d'artisan, etc. Après avoir changé radicalement de cap, diplômée d'une grande école de commerce, elle a exercé ses talents pendant trop longtemps dans le domaine de l'audit, du crédit, etc. Bref, loin de ses réelles aspirations personnelles. Prendre le temps de vivre, créer, être bien tout simplement, en accord avec ses envies. De mon côté, j'ai été tour à tour web designer, chef des projets web, salarié plus indépendant, photographe, réalisateur de courts-métrages et maintenant, depuis 2 ans, animateur, journaliste radio pour 2 radios de la bande FM bordelaise. Bilingue français-anglais. Ma compagne est même trilingue, car elle s'exprime parfaitement en espagnol. Nous sommes un peu fatigués en ce qui me concerne, je peux dire même épuisés et écœurés, de l'état d'esprit général français et sommes prêts à tenter un nouveau départ. La France est compliquée, expérience, âge, diplôme, etc. Terre devenue frileuse qui ne fait pas confiance à la personnalité, au talent et parcours atypique et singulier. Trop de rigidité et d'inertie. Pensez-vous que nos profils et nos diverses compétences et capacités d'adaptation peuvent nous permettre de nous créer une nouvelle vie du côté de Prague ?
Alors, il faut préciser également que vous nous demandiez si nous pourrions vous accueillir au sein de la radio. Malheureusement, ce n'est pas possible. Les coupes budgétaires ont déjà beaucoup réduit les effectifs des rédactions étrangères de la radio tchèque, de même qu'elles ont sonné le glas des ondes courtes depuis le mois de février de cette année.
Cela dit, nous faisons passer votre message et si d'aventure quelqu'un était intéressé par votre profil, vos profils, il peut évidemment s'adresser à la rédaction française de Radio Prague et nous nous ferons un plaisir de lui transmettre vos coordonnées si ça peut vous aider. Un de nos deux auditeurs japonais, Motofumi Kai de Tokyo, nous a envoyé deux rapports d'écoute et une petite pensée.
Bonjour, je suis enfin en vacances d'été et j'ai donc du temps pour écouter vos programmes. J'ai bien reçu votre carte QSL par rapport d'écoute du 1er août. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour la brochure sur Prague en japonais. Cela me rappelle les bons souvenirs de notre visite avec ma femme à Prague. Cela fait déjà plus de 10 ans que nous sommes allés en République tchèque. Le temps passe vraiment vite.
Et dans son deuxième rapport d'écoute, Motofumi Kai nous signale qu'il a beaucoup apprécié notre émission musicale du dimanche sous le groupe tchèque Choco Voco.
Bien sûr, je ne connaissais pas du tout le groupe avant d'écouter l'émission. J'ai l'impression qu'ils ont inventé un mode tout à fait spécial de sorte que les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre facilement. Je ne comprends pas les paroles en tchèque, mais leurs chansons ne sont pas vraiment du rap. Elles font plutôt penser à des poèmes en musique. Le présentateur a dit au début de l'émission que ce groupe est inclassable et je suis tout à fait d'accord. J'ai leur site web et j'ai trouvé que dans l'album, elles ont enregistré une chanson intitulée « Leosh » que presque tous les Japonais connaissent. Pourquoi ? Parce que cette chanson était très populaire il y a une vingtaine d'années sur le nom de YMCA au Japon. Je n'avais jamais imaginé que cette chanson était chantée en tchèque aussi.
Et oui, en effet, cette chanson du groupe tchèque Choco Voco est une reprise et une réadaptation du célèbre tube YMCA du groupe Village People. Et donc on se quitte en musique avec un extrait de la chanson Léosh. Cette émission était proposée et présentée aujourd'hui par Anna Kubishta et Hanna Niemetchkova.
Et puis comme chaque samedi, on referme maintenant avec la rubrique littéraire. Václav Richter se penche aujourd'hui sur un livre consacré à la vie littéraire tchèque à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, période qui révèle les antagonismes profonds et les tensions malsaines dans la société tchèque.
Rencontre littéraire. La période entre septembre 1938 et mars 1939 est une des périodes les plus sombres dans l'histoire du peuple tchèque. C'est pendant cette courte période entre le démantèlement de la République tchécoslovaque et l'occupation du pays par l'armée du Troisième Reich qu'éclatent les problèmes et les animosités qui se sont accumulés pendant la Première République, c'est-à-dire entre 1918 et 1938. Les frustrations et les désillusions n'ont pas épargné la vie littéraire de cette époque. C'est pour dissiper les doutes et pour démentir les idées reçues sur les attitudes de certains écrivains tchèques de ce temps-là que l'historien de la littérature Jaroslav Med a écrit le livre intitulé « La vie littéraire à l'ombre de Munich ». La Deuxième République n'a duré que 167 jours. Après la signature des accords de Munich le 30 septembre 1938, la Tchécoslovaquie est coupée de 30% de son territoire, la population tchèque et juive de ces territoires est poursuivie et chassée, le président tchécoslovaque Edvard Beneš démissionne et se réfugie à Londres. On cherche le coupable de la chute de la Première République tchécoslovaque et de l'effondrement du tchécoslovaquisme, c'est-à-dire de la conception étatique basée sur l'idée de l'existence de la nation tchécoslovaque. On accuse le système politique de la Première République que d'aucuns jugent trop libéral. La déception, la désillusion et l'afflux d'immigrants juifs font ressurgir dans le pays une vague d'antisémitisme. La haine de la presse d'extrême droite, catholique et agraire, s'attaque aux juifs, mais aussi aux intellectuels liés aux structures de la Première République. Une véritable campagne de dénigrement est organisée, par exemple, contre Karel Čapek, un des meilleurs écrivains et journalistes tchèques de cette époque. La santé ébranlée de l'écrivain ne résiste pas à cette explosion de haine et de calomnie et Karel Čapek meurt le 25 décembre 1938. Selon certaines sources, la presse catholique et agraire, mais aussi les écrivains catholiques de cette époque, auraient joué un rôle actif dans ces aberrations. Jaroslav Met, auteur du livre « La vie littéraire à l'ombre de Munich », a décidé donc de se pencher sérieusement sur les activités des milieux littéraires tchèques de ce temps-là.
Podívejte se, mně ani tak nešlo o těch 167 dní, ale mně šlo především o to...
Ce n'était pas seulement les 167 jours de la Deuxième République que j'avais en vue en écrivant ce livre. Je voulais surtout montrer pourquoi les choses se sont passées ainsi. Je pense que la Deuxième République était dans une certaine mesure le fruit des deux décennies précédentes. La polarisation au cours de la Première République était terrible. Il y avait la gauche, il y avait les gens qui gravitaient autour du journal Lidové Noviny, le journaliste Ferdinand Peroutka, l'écrivain Karel Čapek, etc. Et de l'autre côté, les catholiques. La polarisation de la vie littéraire a donc d'une certaine façon cristallisé et abouti à des situations qui nous semblent aujourd'hui absurdes.
Sans comprendre l'évolution précédente, il pourrait nous sembler, selon Jaroslav Med, que les gens se sont comportés au cours de cette période comme des fous. Soudain, beaucoup de choses qui, sous la Première République, faisaient tout naturellement partie du discours politique, ont complètement changé et pris une signification bien différente. Le rôle de l'ancien président Tomáš Garrigue Masaryk, considéré comme le représentant du tchécoslovaquisme, les rapports entre Tchèques et Slovaques et même la question juive ont été abondamment discutés déjà sous la Première République. Après Munich et le changement de contexte politique, tous ces thèmes sont soudainement perçus d'une façon tout à fait différente et la discussion sur ces sujets dégénère en une querelle et prend un aspect inconciliable et haineux. Selon Jaroslav Med, les intellectuels catholiques, par exemple, ne semblent pas s'apercevoir du changement de la situation et continuent à écrire dans la même veine comme sous la Première République. Cependant, ce qui pouvait être considéré avant Munich comme une réflexion critique de la démocratie libérale devient une attaque politique contre la démocratie et la liberté d'opinion. Après quelque temps, ils finissent toutefois quand même par se rendre compte de ce changement et de la situation tragique de leur pays. Jaroslav Med constate.
Já se domnívám, že si to začali uvědomovat až poněkud, řekl bych, až ke konci roku.
Je pense qu'ils n'ont commencé à le réaliser que vers la fin de l'année 38. Je cherche à démontrer dans mon livre que les accords de Munich, ou le diktat de Munich, si vous voulez, a été un choc terrible auquel ils ont réagi par un geste désespéré. Mais ensuite, vers la fin de l'année 38, tout le milieu littéraire a commencé à se rendre compte que cela ne pouvait pas continuer de la même façon. Les attaques les plus abjectes contre Karel Čapek, par exemple, étaient l'œuvre de canailles, de la presse à scandale. De toutes les grandes figures littéraires, seul Václav Rensch s'est attaqué à Karel Čapek dans un éditorial fâcheux. Par contre, le grand écrivain catholique Jaroslav Durich, qui est souvent cité dans ce contexte, n'a pas écrit une seule ligne contre Čapek.
Ale jak se často uvádí třeba Durich, tak Durich o něm nenapsal ani řádek.
Le livre de Jaroslav Met est donc aussi une espèce de réhabilitation des écrivains catholiques et de leur attitude pendant la période de la Deuxième République.
To mě vlastně přivedlo k napsání té knihy, to neustálé označování.
C'est la raison en fait pour laquelle j'ai écrit ce livre. Je ne pouvais pas accepter le fait que les écrivains catholiques de droite fussent qualifiés de clérico-fascistes. Cela me rendait furieux, surtout quand j'entendais citer dans ce contexte les noms de mes amis, comme ceux du critique et traducteur Bedřich Fučík ou encore du poète Bohuslav Reinek. Bedřich Fučík, qui était mon ami, me disait toujours « N'oublie pas que la Deuxième République était une période où nous étions affolés. Nous ne savions absolument pas quoi faire.
Et Jaroslav Med de constater que ces écrivains, et non seulement eux, mais toute la communauté littéraire, étaient convaincus que cette situation s'éterniserait et pourrait durer peut-être pendant 50 ans. L'auteur cherche à démontrer que malgré les accusations infondées, les écrivains catholiques et le milieu littéraire dans son ensemble n'ont pas pris part, à quelques exceptions près, à cette chasse aux sorcières et ne se sont pas engagés dans les aberrations de la Deuxième République. Le travail de recherche d'une grande ampleur qu'il a réalisé avant la rédaction de son livre lui permet d'affirmer que la communauté littéraire tchèque n'a pas perdu son intégrité dans cette épreuve.
Voilà, et c'est déjà la fin pour cette fois du programme en langue française préparé par l'équipe de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Ahoy. Radio